Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père, qui nous a réunis ce matin. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a dit dans Luc 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume céleste. » Et nous savons que, bien-aimés, nous faisons partie de ces privilégiés qui ont reçu la visitation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous savons que nous allons vivre la vie éternelle avec ce bon berger-là qui nous aime tant. Notre partage de ce matin, nous l'avons intitulé « Dieu veut délivrer, Dieu veut sauver ». C'est vrai qu'il nous arrive souvent, et c'est presque notre lot quotidien, bien-aimés, de nous attendre vraiment à l'intervention de Dieu. Nous crions à Dieu, nous insistons auprès de Dieu, et quelquefois nous ne voyons pas de suite. Nous désirons la guérison ne vient pas. Nous désirons la délivrance, elle ne vient pas. Nous désirons la bénédiction, quelle que soit sa forme, elle ne vient pas. Et la question que nous pouvons peut-être nous poser, est-ce que Dieu entend nos prières? Quelquefois, nous commençons à douter. Lisons pour commencer, bien-aimés, le texte de 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 1er. Donc là, le contexte, nous savons que Samuel ici est encore jeune, c'est le premier prophète. Hein? Donc il est. Nous lisons au verset premier, on nous dit « La parole de l'Éternel, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. » Donc ce prophète-là transmettait le message de Dieu à son peuple, au peuple de Dieu. Et ensuite, on nous dit, Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Eben Ezer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Mais pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Amen. Qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Je m'arrête un instant pour que nous voyons déjà qu'il y a une aberration là dans ce qui vient de se passer. Israël qui s'engage au combat contre ses ennemis habituels, les Philistins qui sont vraiment à côté d'Israël. Et le combat, ils ont bien remarqué que cette fois-ci, le Seigneur les a laissés battre par l'ennemi. Et quelle a été leur réaction ? C'est d'aller chercher l'arche de l'Alliance. Et ils l'ont bien précisé. Hein. Ils ont dit, au verset 4, on nous dit, « Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'Alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. » Nous continuons, on nous dit, « Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. » Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Voilà ce premier texte qui nous rappelle une situation triste et dramatique en même temps, bien-aimé. Le peuple d'Israël, le contexte, c'est que cela fait un moment et s'est éloigné de son Dieu. Nous n'avions pas lu les textes précédents, hein, les versets 3, 1 Samuel 3, et même dans le livre des Juges, un peu plus tôt, on n'a pas le temps de lire cela. Mais on voit que depuis, le cœur du peuple s'est éloigné de son Dieu. Et même le lieu de rassemblement qui est mentionné ici, on nous dit le rassemblement c'est à Eben-Ézer. Nous savons qu'au temps de Josué, c'était le lieu de rassemblement, c'était Gilgal. Et au temps des juges, c'était Mitzpah. Mais on voit que là, ils ont fait le choix d'aller se rassembler, non pas à ces deux endroits habituels, où ils venaient en la présence de Dieu, avant toute décision. Et nous constatons bien que là, bien-aimés, lorsque le cœur s'éloigne de Dieu, on a du mal à consulter Dieu. Et on voit le combat qu'ils ont entrepris ici, ils n'ont même pas demandé l'avis de Dieu. Pas du tout. Ils ont pris la résolution personnelle d'aller combattre. Et cela peut nous arriver à nous aussi, bien-aimés. Lorsque nous nous éloignons de notre Dieu, nous allons prendre des grandes décisions sans consulter Dieu. Et les conséquences, nous savons que Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu va permettre que les conséquences soient plus ou moins dramatiques pour nous. Dieu va permettre cela. Mais pourquoi ? Il va nous livrer à l'ennemi comme il l'a fait pour son peuple, mais pour nous amener plus tard à nous repentir, bien-aimés, à reconnaître nos torts, nos fautes. Et nous voyons que ce peuple-là n'a pas reconnu tout de suite. Ils ont entrepris de faire quoi ? Ils ont dit, mais allons chercher l'alliance. Au lieu de se dire, après cette défaite-là, de se tourner tout de suite vers Dieu, de dire à Dieu, mais que s'est-il passé ? Parce qu'ils ont bien posé la question hein, aux anciens. Et au lieu de dire, mais est-ce que tu peux consulter Dieu pour nous, pour savoir pourquoi cette fois-ci, il nous a livrés à nos ennemis ? Ils ne l'ont pas fait. Mais nous savons pourquoi. Parce qu'ils ne voulaient pas affronter Dieu. Ils savaient qu'en eux, il y avait un problème. Ils n'avaient pas vraiment envie de s'approcher de Dieu. Et il peut nous arriver aussi, au lieu d'affronter Dieu dans certaines situations qui nous dépassent, de dire à Dieu, mais sonde-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui fait que je ne vois pas l'aurore ? Je ne vois pas ton soleil se lever sur ma vie ? Au lieu d'affronter Dieu, de venir à Dieu, nous allons dire non, je vais aller voir tel pasteur, tel diacre, tel ancien, pour qu'il prie pour moi. Au lieu de voir cela directement avec Dieu, se repentir. Notre appel de ce matin, c'est encore un appel à un retour franc à notre Dieu, bien-aimé. Un retour franc. Nous savons que Dieu nous a acquis à grand prix. Il nous aime vraiment. J'avais cité le texte de Luc 12, 32 que j'aime beaucoup, que Jésus, il a dit avec affection à son peuple. Il a parlé du petit troupeau. Il a dit, Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Nous sommes le peuple du ciel. Nous sommes ce peuple qui est appelé à vivre l'éternité avec ce Dieu-là. Mais pour l'instant, nous sommes sur la terre. Et Dieu veut continuer à manifester sa puissance à travers nous. Dieu veut que nous continuions à vivre ce qu'on appelle la transformation continuelle de notre vie. L'un des cantiques que nous avions chanté tout à l'heure, l'avant-dernier, on a dit « Mes amis me laissent, me quittent, mais moi je veux suivre Jésus. » Amen. C'est vraiment, c'est une belle parole. J'aime beaucoup. Ça fait partie des cantiques que j'aime bien. Lorsque nous faisons le choix de tourner le dos à notre passé, de tourner le dos à ces amis qui nous entraînaient dans des choses pas bien, le Seigneur attend que nous avancions avec lui. que la vie de Jésus-Christ se manifeste davantage dans nos vies et que la communion soit permanente. Et je relis cette partie. On nous dit, le peuple envoya, le verset 4, hein, le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège. Et ils ont dit, et au verset précédent, hein, ils ont dit, allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. On voit bien, le peuple ne demande pas l'intervention de Dieu, il demande l'intervention de l'arche. Mais nous savons que l'arche était vraiment, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et ce peuple-là. La présence, c'est, on dit que l'arche, c'est vraiment le trône de Dieu parmi ce peuple. Et c'est une forme d'idolâtrie, bien-aimé. Parce que lorsque le peuple marchait dans le désert, c'était l'arche qui le précédait. Et nous savons qu'il y avait vraiment la victoire qui accompagnait ce peuple-là. Et au lieu d'aller vers ce Dieu, vers le vrai Dieu, ils vont se détourner, ils vont se tourner maintenant vers cet objet. Et Dieu va accepter d'être traîné, parce que c'était la représentation de Dieu. Dieu va accepter d'être entraîné par ce peuple. Mais la finalité, c'est quoi? Dieu, entre guillemets, va se laisser emporter par l'ennemi d'Israël. Dieu va aller plus loin. Mais nous savons que la conséquence, c'est quoi? Que même ce peuple ennemi de Dieu va subir la condamnation, va subir les jugements. Nous savons que plus tard, nous n'allons pas le lire, hein, ils vont être frappés d'hémorroïdes, frappés de mort, au point de prendre la décision de renvoyer l'arche à son lieu de départ. Mais nous restons sur le peuple de Dieu que nous sommes. Le Seigneur désire notre délivrance. Et nous savons que la délivrance passe par quoi? Bien entendu, par une communion parfaite avec Dieu. Si nous réalisons que cette communion a été rompue par quelque chose, repentons-nous. Nous savons que Dieu ne conteste pas indéfiniment avec l'homme. Dieu veut, ne désire qu'une chose, que nous qui sommes ses créatures, que nous soyons véritablement en communion avec lui. Et ça fera, je crois que c'est le texte que nous lirons à la fin pour conclure. Jésus a même dit dans Jean 14 que si quelqu'un m'aime, je me ferai connaître à lui. Amen. Le Seigneur veut se révéler davantage. Parce que ce texte m'a un peu perturbé. J'ai dit, mais bon, tous les chrétiens connaissent Jésus. Mais pourquoi Jésus va encore dire, mais si quelqu'un, je me ferai connaître à lui? Ça veut dire qu'il y a une autre dimension, bien-aimé. Et cette dimension-là, notre Père la désire pour chacun d'entre nous ici présents, pour la chrétienté. Il veut que nous gardions sa parole. Et lisons le texte suivant, c'est dans 1 Samuel chapitre 27, où nous allons voir pratiquement la même démarche qu'a vécu l'homme selon le cœur de Dieu, David, que nous aimons tous, dont la vie est pour nous un véritable enseignement. 1 Samuel 27. Nous savons que dans le contexte, avant de lire le chapitre premier, nous savons que David, il a été déjà un roi. Et Samuel a plusieurs fois tenté de le tuer. Et Saül, oui, a cherché à le tuer. Il ne l'aimait pas. Il savait que David allait le remplacer plus tard. Mais à force d'épreuves qui se multiplient dans sa vie, David va faire un choix, comme le peuple d'Israël, sans consulter Dieu. Et c'est ce que nous allons lire au verset premier. David dit, déjà, il est décrit ici, hein, David dit en lui-même. Donc il n'a pas dit que non, c'est Dieu qui lui a révélé. Donc c'est une résolution personnelle. Et cela vient de quoi? Mais de ce qu'il a vécu. Nous tous, nous pouvons vivre des situations compliquées, des choses qui se renouvellent, qui se répètent, des choses malheureuses. Et cela peut nous amener à nous dire non, certainement je vais finir dans tel état. Certainement, la fin de cette situation va être dramatique pour moi. C'est ce que la chair nous propose. C'est ce que l'ennemi aussi nous propose. Mais est-ce que nous avons demandé l'avis de Dieu? Quelquefois, nous oublions ce Dieu qui est juste à côté de nous, qui n'attend qu'une chose, que nous crions à lui, que nous lui demandions son avis à lui. Et nous reprenons, nous continuons la lecture au verset premier. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maok, roi de Gath, c'est-à-dire les ennemis d'Israël, les Philistins. David et ses gens restèrent à Gath, auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses deux femmes, Ahinoam de Jisréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Achish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Voilà, on peut s'arrêter là. Nous voyons bien, bien-aimés, qu'est-ce qui a poussé l'homme selon le cœur de Dieu, cet aîné que nous aimons tous, que nous apprécions tous, à prendre cette décision. Mais c'est la pression extérieure. C'est la pression. Et nous savons que ces épreuves ont duré. Saül a plusieurs reprises tenté de lui causer du tort, de le tuer. Mais nous avons l'impression que Dieu, dans sa situation, Dieu n'est pas intervenu. Dieu n'était pas intervenu. Nous avons l'impression de cela, bien-aimé. Et cela peut nous arriver. Nous attendons un secours qui ne vient pas de la part de Dieu. Et cela peut nous pousser à faire un choix, à aller dans le camp des ennemis de Dieu. C'est ce qu'a fait David ici. Il a pris la décision sans consulter Dieu. Ne faisons pas cette erreur-là, bien-aimés. Nous savons que David l'a fait, a commis cette erreur, je crois même deux fois. C'est la deuxième fois qu'il est allé chez Achish. La première fois, il est arrivé là-bas et il a dû contrefaire un fou, et se faire passer pour un fou, et après le roi va le chasser. Et c'est la deuxième fois qu'il repart là. Et demandons à Dieu de l'aide. Disons à Dieu, même si je dois mourir, que je meure dans cette situation. David a pris la décision de partir pour sauver, il a bien dit, pour sauver sa vie. Mais est-ce que c'est possible qu'il meure? Est-ce que c'est possible? Nous savons que dans le contexte, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà été un roi. Dieu l'avait choisi. Dieu lui a dit, tu seras roi. C'était la parole de Dieu sur sa vie. Et Dieu allait protéger sa vie. Il n'était pas encore devenu roi, donc il allait forcément l'être. Et ce qui nous perturbe quelquefois, c'est que nous oublions les promesses de Dieu dans notre vie. Parce que celui qui a dit que nos vies sont cachées en lui, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui veille sur nous. Il ne peut pas permettre que quelqu'un attente à notre vie sans que ce soit sa véritable décision. C'est impossible. Donc faisons confiance à notre Dieu qui veille sur nous tous les jours de notre vie. Et n'ayons pas peur de la pression. N'ayons pas peur peut-être des personnes qui nous ont, on va dire, qui nous ont maudits, qui désirent du mal de nous. N'ayons pas peur. Si nous n'avons fait du tort à personne, mais ayons confiance en Dieu qui veille sur nos âmes. Jésus même nous a dit que même tous nos cheveux sont comptés, bien-aimés. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Il connaît même le nombre de nos cheveux sur nos têtes. À plus forte raison, nos situations qui les gèrent. C'est le maître de la situation. Et montons vers Jésus, faisons-lui confiance, réalisons que nous avons eu du prix à ses yeux. C'est pour cela qu'il est venu nous sauver. S'il a livré sa vie pour que nous accédions à la vie éternelle, s'il a souffert pour nous, est-ce qu'il va nous abandonner comme ça, livrer nos âmes à la détresse, livrer nos âmes aux pleurs, aux lamentations, de façon continuelle? Non, non. ce n'est pas ce Dieu-là que nous servons, bien-aimés. Faisons confiance à notre Dieu. Même s'il va permettre que la situation autour de nous s'aggrave, aille de mal en pis, comme on le dit, Dieu veille sur ses élus. Dieu veille sur ses enfants. Nous, notre part à nous, c'est d'avoir foi en notre Dieu et de ne pas prendre des décisions à la hâte. Ne pas sortir de ce lieu qui constitue le lieu de notre bénédiction, c'est-à-dire la proximité de Jésus-Christ. Et cette proximité, comment nous allons l'entretenir? Mais bien entendu, par sa parole. Nous devons prendre l'habitude de sonder sa parole aussi, bien-aimés. De sonder la parole de notre Seigneur. Et l'une des démarches que nous faisons habituellement, c'est quelquefois nous pouvons prendre la Bible, lire des versets, peut-être pour emmagasiner des versets. Mais la meilleure, l'étape la plus importante, c'est l'étape suivante. C'est qu'est-ce que nous faisons de ces versets-là? C'est surtout ça. Et je dirais, une autre démarche consistera à dire, avant de prendre la Bible, lorsque je veux méditer la parole, je dis, mais je vais chercher Jésus dans cette parole. Amen. Le but de tout chrétien, c'est le conseil que nous devons nous donner à nous tous. Lorsque je prends ma Bible, est-ce que c'est juste pour lire un verset? Pour juste méditer sur un verset? Méditer, c'est bien, bien-aimé. Mais la réalité, c'est que lorsque nous prenons la parole de Dieu, c'est de chercher à saisir le cœur de Jésus-Christ. De chercher à saisir Jésus-Christ. Amen. Nous savons que Jésus-Christ était en communion parfaite avec son Père. Communion parfaite. C'est ce qui a fait qu'il avait... Il n'a jamais trébuché face à l'ennemi. Lorsqu'il était, prisonnier, il était pris par la faim, l'ennemi ne l'a pas eu. Pourquoi? Parce qu'il était en communion parfaite. Et nous nous souvenons tous de ces textes de Matthieu 4 ou bien de Luc 4 qui nous parlaient de la période qui a suivi le jeûne de Jésus de 40 jours. Il a vaincu Satan. Par quoi? Par la parole. Il n'a pas cédé. Et nous-mêmes, si nous arrive souvent de céder, c'est que la parole n'a pas sa pleine vie en nous. Et encore, l'appel que nous avons à nous faire ce matin, c'est de veiller à la façon à laquelle nous méditons la parole de Dieu, la façon à laquelle nous approchons Dieu. Si moi je viens prêcher, je ne fais que réunir des versets pour venir transmettre, moi-même je ne suis pas béni, bien-aimé. Cela ne me sert à rien, honnêtement. Et c'est pour cela que lorsque je prends le temps de prêcher, je dis, Seigneur, moi-même, je veux recevoir. Je ne veux pas être un perdant dans l'affaire. Je veux moi-même recevoir avant de transmettre. Sinon, ça ne me servira à rien. Et faisons cette démarche-là auprès de notre Seigneur. Et le Seigneur aussi, nous le savons, bien-aimés. N'attends pas que nous soyons dans le service, que ce soit dans l'annonce de l'évangile, en fait, l'évangélisation ou tout autre. Ce n'est pas cela que le Seigneur attend de nous. Amen. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas la priorité de notre Dieu. La priorité de notre Dieu, c'est la communion avec Jésus. Nous savons que lorsque cette communion devient de plus en plus forte, mais le service qui va découler sera un service puissant. Sera un service qui va glorifier notre Dieu. Que le Seigneur soit béni. Lisons un autre texte, c'est dans 1 Samuel chapitre 7. Nous revenons toujours sur le peuple d'Israël et nous allons voir la suite. Samuel chapitre 7, nous allons lire les 15 premiers versets. Les gens de Kirjajarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Aminadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éliasar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjajarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Amen. On va maintenant ici le peuple d'Israël va crier à l'Éternel. C'était ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah. Amen. Maintenant, c'est Mitzpah. Ils reviennent à Mitzpah. Et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier. Je recommence. Ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Amen. Nous voyons bien la différence ici, bien-aimés. Au départ, ils avaient dit, prenons l'arche, et c'est l'arche qui va nous délivrer. Ils ne voulaient pas s'approcher de Dieu. Et là, maintenant, ce qui vient de se produire, c'est merveilleux. Là, ils se sont repentis devant Dieu. Et ils appellent Dieu leur Dieu. Ils disent bien notre Dieu. Il a dit, intercède auprès de Dieu pour nous. Voilà cette belle démarche. Cette belle attitude que Dieu attend de chacun d'entre nous. Peut-être que nous avons des Baals, des Astartés dans notre vie. Pouvons-nous dire, non, moi je ne suis pas dans ces choses. Mais ça peut être peut-être les honneurs que tu gardes encore, ce qui prend la place de Dieu. Ça peut être l'orgueil que tu gardes encore. Le besoin de paraître, le besoin de s'élever, le besoin d'être reconnu. Toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Il est en train de te dire, mais renonce à cela. Et la repentance vient, doit d'abord se manifester pour que Dieu délivre. Dieu est toujours disponible. Il est là, il t'attend, il m'attend, il nous attend tous. Il veut nous délivrer, il veut nous sauver, il veut nous faire du bien. Mais il attend qu'une chose, que nous nous repentions. Et la repentance doit se traduire par quoi ? Par des actes, bien-aimés. Et le Seigneur attend de cela. Peut-être si tu as donné à certaines choses, tu dis, Seigneur, voilà, aujourd'hui, je prends cette décision, j'arrête aujourd'hui devant toi et donne-moi la force pour qu'à l'avenir, je ne retombe pas dans ces travers. Oui, tu prends cet engagement-là, Dieu est fidèle, il va te soutenir, bien-aimé. Si dans ton cœur, tu as envie d'élévation, d'envie de reconnaissance, dis-le au Seigneur. Le Seigneur qui lit dans les cœurs, il voit tout, bien-aimé. Et généralement, le Saint-Esprit nous convainc de ce que nous avons dans le fond du cœur. Hein. Il nous convainc, il nous montre que tel il y a un problème. Et Dieu, qu'est-ce qu'il attend ? Que nous venions à lui avec sincérité, que nous disions à Dieu, regarde, là je suis faible, là je manque de tolérance, je manque de sagesse, je suis colérique, je suis, regarde, je ne te cache rien, je te montre tout. Aide-moi, Seigneur. Et notre Dieu, qui est fidèle et bon, il va agir pour la gloire de son nom. Et nos bien-aimés, ils ont entrepris la bonne démarche. Cette fois-ci, ils ont consulté aussi le serviteur de Dieu, Samuel, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc, si tu as des difficultés, tu peux transmettre aussi ton fardeau à quelqu'un, un bien-aimé. Ça peut être un aîné, ça peut être un pasteur qui va peut-être t'aider dans cette démarche-là aussi. Mais il faudrait que ta démarche soit sincère, bien-aimé. Si tu n'es pas prêt, abstiens-toi. Mais lorsque tu es sérieux, viens devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je répands tout devant toi. car je veux marcher avec toi. Je veux te connaître davantage. Je veux t'aimer davantage et je veux être tout entier à toi. Et c'est ce que notre Seigneur et notre Dieu attend de chacun d'entre nous. Et la suite, nous irons jusqu'au verset 15. Au verset 9, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Amen. L'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Qu'est-ce qu'on vient de remarquer dans le verset 10, bien-aimés? Est-ce que Israël a combattu ici? Israël n'a pas du tout combattu. Israël n'a pas combattu. Lorsque nous venons à Dieu, nous nous repentons sincèrement, il voit notre cœur. C'est l'Éternel qui va combattre pour nous. Amen. C'est lui qui va combattre à notre place. Il va tout faire. Il va briser l'ennemi. Et nous viendrons juste pour constater les dégâts que le Seigneur a accomplis et récupérer le fruit de la victoire. Et c'est ce que nous dit la suite. Hein. Au verset 11, on nous dit, les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Et l'appela du nom d'Ébénézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne viennent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Pendant toute la vie de Samuel. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc, nous voyons bien aimés ici, c'est le Seigneur qui veut combattre. Ces combats qui nous dépassent, peut-être depuis des années, des choses que nous n'arrivons pas à faire par nous-mêmes. Peut-être des personnes se sont liguées contre nous. Nous ne le savons pas. Mais le Seigneur te demande une chose à toi. Viens et humilie-toi sincèrement devant son trône de grâce. Dis, Seigneur, je me présente à toi. J'ai vraiment besoin de toi. Je ne demande pas seulement ta délivrance, mais je ne demande une chose, la communion avec toi. Amen, bien-aimé. La démarche que nous devons faire, ce n'est pas celle de notre délivrance. Ce n'est pas celle de notre secours, bien-aimé. La démarche que nous devons faire, c'est de retrouver la communion avec Dieu. Nous avions vu avec le peuple d'Israël. C'est retrouver Jésus sincèrement, du fond du cœur. Et nous savons, Matthieu 6, 33 nous le dit, bien-aimé. Jésus a dit, recherchez quoi? Mais premièrement, c'est le royaume. Il a dit premièrement. Dans la Bible, il y a plusieurs premièrement. Hein, mais ce premièrement, c'est vraiment le plus important, je dirais. Il dit rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu règne sur nous, en fait. C'est vrai que ça se manifeste de plusieurs façons. Le fait de voir aussi les hommes sauvés, que le royaume de Dieu s'étende autour de nous. Mais c'est d'abord pour nous-mêmes, bien-aimés, que le royaume de Dieu s'étende sur nous et sa justice. Et il vient de dire, le reste sera accompli et tout le reste vous sera donné. Et c'est exactement ce que Israël a vécu ici. Ils ont retrouvé Dieu sincèrement, mais nous savons que plus tard, ils vont encore faire des rechutes. Mais ils sont venus, ils ont posé des actes. Ils ont jeté les idoles, ils ont tout jeté. Et Dieu les a accueillis et Dieu a combattu à leur place. Aujourd'hui, Dieu veut combattre à ta place. Dieu veut prendre ton fardeau à toi. Il sait, il connaît le poids de ton fardeau, il le sait. Parce que lui qui veille sur ton âme, il le sait. Même tes sentiments les sentiments inavoués, Dieu connaît tout ça, bien-aimé. N'oublie pas. C'est ton Père et c'est celui qui t'a créé en plus de cela. Et il n'est pas insensible, il ne demande qu'une chose, reviens à lui de tout ton cœur. S'il y a des pressions autour de toi, si ta chair veut t'emmener, veut continuer à te juger, dis à ta chair, non, Moi, je veux soumettre mon âme à mon Sauveur. Amen. Lisons un autre texte. C'est toujours, nous revenons à David, notre aîné, et pour voir la suite de cette histoire que nous avions lue tout à l'heure dans 1 Samuel 30. Samuel 30, nous allons lire les 9 premiers versets. Nous avons vu dans un premier temps que David, dans 1 Samuel 27, il avait fait le choix personnel sans consulter Dieu. Et nous en savons la suite. Verset 1er. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag, bon, Tsiklag, en fait, c'est la ville qu'ils avaient reçue, hein, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Mizi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. On s'arrête un instant, bien-aimé. Donc on voit David qui évoluait dans le territoire ennemi, hein, à la suite de la persécution. Et le roi ennemi lui avait donné une ville où il vivait. Et lorsqu'ils étaient partis faire des razzias, à leur retour, on a embarqué tout son camp. Sa femme, ses enfants, même les personnes, les femmes, les proches des personnes qui l'accompagnaient. Et là, nous voyons cette triste scène où on nous disait que tous ont pleuré chaudement. Et David, le chef de ce groupe-là aussi, lui aussi, il a pleuré. C'est ce que nous venons de lire. Au verset 4, nous lisons, on dit « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. » Verset 5, « Les deux femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jisréel et Abigaïl de Carmen, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. » Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Akimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et la suite, au verset 9, et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor et s'arrêtèrent, ceux qui restaient en arrière. Bon, nous n'allons pas lire la suite, mais nous savons que David finira par atteindre les personnes qui ont emmené captifs ses proches. Qu'est-ce que nous avons constaté à la lecture de ce texte? Nous avons vu dans 1 Samuel 27, que David, lorsqu'il était question de fuir Saül, il n'avait pas demandé l'avis de Dieu. Il n'avait pas consulté Dieu. Il a agi sous la pression. Il est parti comme ça. Et là, qu'est-ce que Dieu va permettre? Dieu va permettre que tous ses proches soient emmenés et aussi qu'ils soient face à une situation, que l'appui sur lequel il se tenait, c'est-à-dire le peuple qui était à côté de lui, va prendre la décision de le rejeter parce qu'ils ont voulu le lapider, ils ont voulu le tuer. Donc il va se retrouver seul, bien-aimé. Donc le Seigneur, lorsque tu es sorti de piste, lorsque tu as pris une voie qui n'est pas celle de Dieu, même si tu t'es entouré de certaines forces, notre Dieu, par amour pour toi, il va te les enlever. Amen. Ne sois pas surpris que des personnes sur qui tu comptes, ça peut être ton enfant, ça peut être qui constitue ta force, Dieu finira par les enlever. Pas de mort, hein, mais c'est-à-dire créer. Mais cela peut arriver aussi. Mais Dieu va les éloigner de toi. Il y aura une situation qui va se produire où tu vas te sentir seul. Et tu vas dire, mais ces personnes, je lui ai fait du bien. Et c'est le cas de David. David a fait du bien à ces personnes qui étaient, la Bible déclare, c'était des ramassis, des gens qui n'avaient rien dans la ville, qui l'avaient rejoint. Dieu leur a donné une nouvelle existence, donné un nouveau sens à leur vie. Mais on voit bien le retour qu'ils ont adressé à David. Mais c'est de l'ingratitude. Donc ils ont voulu le tuer. Alors que David lui-même aussi, il avait perdu ses deux femmes. C'était vraiment injuste. Dieu va permettre que nous vivions cela lorsque nous nous trompons vraiment de voie. Et ne soyons pas surpris, bien-aimés. Lorsque cela arrive, lorsque nous avons une grande déception de la part de ceux à qui nous avons fait du bien, posons-nous la question. Est-ce que nous sommes toujours en phase avec notre Dieu? Et généralement, c'est qu'il y a un problème lorsque le Seigneur permet cela. Et ce qui est merveilleux, dans la vie de David, l'homme selon le cœur de Dieu, on a vu la réaction. Lorsque tout vient à te manquer, lorsque tu n'as plus personne sur qui compter, il a perdu la ville, là où il y a le temple, le lieu qu'il chérissait, il est loin de Jérusalem. Il se retrouve avec des personnes sur qui il s'est appuyé, ces personnes l'ont lâché, il se retrouve seul. Quelle est la bonne réaction? Nous voyons ici, qu'est-ce qu'il a dit? C'est vers la fin du verset 6. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc notre Dieu te dit ce matin, reprends courage. Peut-être que tu as été déçu, abandonné, tu es découragé, dépassé par des situations. Il n'y a plus aucune main bienveillante qui est tendue vers toi pour te secourir, pour t'aider. Regarde le modèle que nous a laissé David. C'est quelqu'un qui a commis des erreurs. Hein. Il en a commis d'autres. Nous ne pouvons pas tout citer. Mais lorsqu'il réalise sa solitude, qu'est-ce qu'il fait? Il dit stop. Je me tourne vers le Dieu de mon salut. Et il a pris la bonne décision. Et nous connaissons la suite. Et le Seigneur veut que tu fasses la même chose, bien-aimé. Nous lisons Ésaïe 66, verset 2. Dieu n'attend que nous. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous guérir. Dieu veut manifester sa gloire dans notre vie. Ésaïe 66, verset 2, qui nous dit ceci. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Toutes les situations que nous vivons, que nous traversons, c'est Dieu qui a permis cela. Et la fin du verset 2 nous dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Amen. Voici. C'est une belle promesse que le Seigneur t'adresse, il m'adresse aujourd'hui. Il dit, voici celui sur qui je veux porter mon regard. Porter le regard, c'est-à-dire que le Seigneur veut nous entourer de tous ses bienfaits. Il veut nous secourir, il veut nous faire du bien. Il dit, sur celui qui souffre. Peut-être tu souffres ce matin,